Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
L'homme est un loup pour l'homme, selon Hobbes. Et pourtant, l'homme ne peut se passer de l'homme, étant avant tout un animal social. Sauf qu'aujourd'hui, avec tous ces réseaux sociaux professionnels qui nous inondent, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok et j'en passe, les amis affluent, parfois par centaines, par milliers, virtuellement du moins. Mais alors, comment faire pour s'y retrouver dans ces relations? Entre relations et amis, parfois il n'y a qu'un pas, parfois un grand pas, mais comment faire le ménage dans ces relations? C'est la question du jour dans la quête de sens. Et j'ai la joie d'accueillir, pour tenter de répondre à cette question, trois invités qui sont Marie-Charlotte Lanta, bonjour à vous. Alors vous êtes coach, formatrice et co-auteur de 50 exercices pour dépolluer ses relations chez Erol. Et puis Anne-Claire Lévesque, également auteur de cet ouvrage. Bonjour à vous Anne-Claire Lévesque, vous êtes auteur jeunesse et de développement personnel. Et vous êtes également, donc là, je l'ai dit, co-autrice, co-auteur de cet ouvrage. Béatrice Millet est également avec nous par téléphone. Bonjour Béatrice.
Bonjour.
Alors vous êtes docteur en psychologie et vous avez publié de votre côté L'ennui des autres chez Payot. Alors c'est assez amusant mesdames, puisque vos deux ouvrages, vous ne vous êtes certainement pas concertés j'imagine pour les écrire, ces deux ouvrages sont constitués quasiment de la même introduction. C'est quand même curieux. Béatrice Millet, de votre côté, vous commencez ainsi: de plus en plus de personnes ne supportent plus les autres. Il ne s'agit pas seulement des incivilités que l'on peut rencontrer dans l'espace public, dites-vous, même si cela contribue à accentuer leur malaise. Et vous, de votre côté, mesdames, vous dites « Elle est toxique, il me pollue avec son stress, sa pue, etc. » Ces métaphores liées à l'environnement que l'on égrène sans y penser sont pourtant révélatrices de contrariété dans nos relations quotidiennes. En gros, on a l'impression qu'aujourd'hui, plus que jamais, on supporte de moins en moins les autres. J'ai envie de commencer par vous, Béatrice.
Oui.
Comment expliquer ça et comment l'avez-vous observé ?
Alors, comme vous l'avez dit, moi, je suis psychologue, donc je reçois des gens.
Oui.
Donc, j'ai une vie privée aussi, également, hein, où je vois des gens, tout à fait. Mais mes livres, je les écris toujours en fonction de ce que me disent les gens qui viennent me consulter. Et c'est vrai que ces temps-ci, de plus en plus de personnes sont gênées. Donc, c'est vrai d'une part par les incivilités, mais ça, on en a beaucoup parlé dans l'espace public. Mais avec un peu cette question du perfectionnisme qui vaut pour tout, j'ai envie de dire, pour le travail, pour les loisirs, pour ce qu'ils font, et aussi pour leurs relations. Tout le monde veut un peu des relations parfaites.
Des relations parfaites. Mesdames, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Marie-Charlotte?
Oui, alors comme Béatrice, je reçois des gens également en tant que coach. Et effectivement, en fait, moi, je dirais que 9 fois sur 10, les problématiques sont des problèmes relationnels. C'est-à-dire qu'au fond, quand quelqu'un dit « j'ai des problèmes de boulot » ou « je m'inquiète beaucoup, j'ai envie de changer de vie, je ne sais pas comment m'y prendre », etc. Quand on creuse un peu, le fond du problème est souvent relationnel. Alors, il y a la relation aux autres, il y a également la relation à soi. Et en fait, souvent, on en veut aux autres, avec un grand A, comme si tous les autres s'alliaient contre soi pour nous empêcher d'avoir ce qu'on souhaite. Et en fait, ce gros bloc, évidemment, ne veut rien dire, parce que les autres, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose.
L'enfer, c'est les autres, quoi.
L'enfer, c'est les autres, bon, c'est un peu facile.
Ouais.
Et quand on travaille un petit peu sur ces freins, sur ces agacements, sur les problématiques de fond, on s'aperçoit souvent que ce gros bloc des autres ne fait qu'appuyer sur des problématiques qu'on a, finalement, en soi. Et je trouve ça assez intéressant, ce que disait Béatrice, qu'effectivement, beaucoup de gens aimeraient aujourd'hui avoir des relations parfaites, peut-être parce que vous avez fait votre introduction en partant des réseaux sociaux.
Oui, tout à fait.
Et au fond, les réseaux sociaux sont un peu le miroir de ça aujourd'hui, c'est-à-dire que...
On montre son bon côté.
Bah oui, on sait bien que sur les réseaux sociaux, la vie semble parfaite.
Une vie parfaite.
Vous êtes d'accord, Anne-Claire?
Oui,
Effectivement, la perfection qui tue la véracité, l'authenticité des relations, de nos relations, et pourtant, à une époque, on se retrouve effectivement avec... un nombre incalculable d'amis, effectivement, sur les réseaux sociaux, à commencer par Facebook, on n'a pas le nommer.
Oui.
Mais c'est révélateur de quoi, ça, justement? C'est
en
curieux,
fait,
en même temps.
En fait, je pense que cette quête éperdue d'approbation, d'avoir un nombre de followers incroyables qui vont trouver qu'on a un goût exquis parce que on photographie les choses sous tel angle ou qu'on mange des choses délicieuses parce qu'on passe un temps infini à photographier ce qu'on a dans son assiette plutôt que d'être, on va dire, dans la véracité de soi-même, quoi. Et on cherche, on se construit par ce biais une vie rêvée dont on sait pertinemment qu'elle n'est pas la nôtre. Donc on crée déjà, on se place sur une base un peu décalée par rapport à sa réalité. Donc après, c'est le début d'un processus un peu...
C'est le sens de l'amitié qui a carrément changé. Béatrice Millet, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, finalement ?
Mais pas tout à fait, parce que je trouve que les réseaux sociaux, s'ils ont beaucoup d'effets négatifs, effectivement, ont aussi beaucoup d'aspects positifs. Et je dirais tout dépend aussi de qui on est et de l'âge aussi, ça on n'en a pas parlé du tout.
Absolument.
Auquel on se place. D'abord, les jeunes, c'est vrai que spontanément, ils ont l'impression de connaître le monde entier. Alors, pas tous les jeunes. Moi, j'en vois beaucoup qui savent très bien faire la part des choses. Entre eux, c'est un réseau social, donc les gens ne les connaissent pas. Et puis, on a des vrais copains. Et puis, vous avez tous utilisé le terme d'amis. Je dirais, il faut aussi faire la part des choses. Et voir un petit peu qu'on n'a pas des amis, on a des connaissances sur les réseaux, par exemple. Et d'un autre côté, les réseaux, ça permet de rester en contact avec de la famille un peu éloignée. Donc, je dirais, les jeunes, peut-être, ils ont beaucoup de followers et ils vont montrer, ils vont dire, je vais aux toilettes, machin. Et effectivement, on se dit, et aussi en psychologique, peut-être, on a toute une part de personnes qui manquent un peu de confiance en elles, qui vont publier ce genre de trucs. Et puis, il y en a d'autres pour qui c'est aussi un moyen d'élargir leur réseau, et notamment le réseau professionnel, par exemple. Quand vous disiez, on a 12 000 followers quelque part, ou 12 000 amis, effectivement, on est bien d'accord, c'est pas 12 000 amis, mais peut-être ce sont des personnes dont on peut avoir besoin un jour ou l'autre d'un point de vue, pas professionnel, personnel, pour trouver le stage de troisième de votre petit dernier, dans un zoo au bout du monde, ou des trucs comme ça. Et ça a beaucoup de qualité, finalement, aussi, les réseaux sociaux, quand on prend un peu ce recul, et il y a beaucoup de gens, finalement, qui l'ont, et qui savent bien qu'ils ne sont pas des amis.
Oui, absolument.
Mais ce n'est pas désagréable, comme avant, on avait une correspondance épistolaire avec des gens au Japon, où vous voulez. Eh bien, aujourd'hui, au lieu d'envoyer une lettre écrite, on a des amis comme ça un petit peu partout. Et on a des exemples aussi très, très beaux. Moi, je trouve, je pense à un jeune que je connais qui a 14 ans. Pendant le confinement, il a joué à un jeu en ligne avec un copain, mais qu'il n'avait jamais vu.
Oui.
Ils sont rencontrés et ils sont devenus amis. Maintenant, ils ne font pas que jouer, ils se sont rencontrés pour de vrai.
Mmh. Ouais, c'est ça,
on a aussi des exemples comme ça, où les jeunes, il ne faut pas non plus penser que les gens, ils sont tous un peu neuneux, excusez-moi l'expression, à penser que 12 000 personnes, c'est vraiment 12 000 amis.
On est d'accord. Alors, vous dites, Béatrice Millet, c'est quand même intéressant, les gens vous énervent, ils n'ont pas de constance, sont capables de dire tout et son contraire en quelques heures, voire minutes. Dans un dîner, ils n'ont pas de conversation. C'est vrai qu'on entend souvent, oh là là, il n'y a aucune conversation. Je me suis encore ennuyée à ce dîner, etc. Donc là, j'aimerais bien revenir à ce moment précis de l'émission sur ce. Finalement, toujours sur cette attente d'une amitié parfaite, peut-être Marie-Charlotte, excusez-moi, Béatrice, je vole votre phrase, je la soumets. Attention de Marie-Charlotte et d'Anne-Claire Lévesque. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que c'est quelque chose que. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision des choses ?
Des attentes parfois insondables qu'on peut avoir avec avec nos relations. Effectivement, je pense qu'on attend tous, comme vous l'avez dit très justement en introduction, l'homme est un animal social. On l'a bien vu d'ailleurs pendant ce confinement à quel point on avait besoin des autres. Et besoin de bonnes relations avec les autres. Moi, j'ai eu énormément de témoignages, et je l'ai vécu aussi moi-même, du fait que c'était extrêmement, doublement cruel au début du confinement, d'avoir éventuellement des mauvaises relations avec des proches, et à quel point le confinement a permis parfois de se retrouver. C'est-à-dire que là, du coup, on passe un coup de fil, parce que là, on a envie de savoir quand même comment ça va. Donc, bien sûr qu'on a besoin des autres. Je crois pas, c'est rarissime, sont les personnes personnes qui réellement... Une vraie
ermite.
Oui, voilà, par essence, c'est très rare, un véritable ermite. Donc, on a besoin des autres. Et qu'est-ce qu'on va chercher, finalement, avec les autres? On va chercher de l'échange, on va chercher de la compréhension, éventuellement, on va chercher parfois de la solidarité, on va chercher de la joie, aussi, le plaisir de partager des bons moments, de s'alléger la vie.
Et Dieu sait que c'est précieux en ces temps un peu difficiles.
Voilà, on va chercher parfois des conseils, parfois des bêtises, le plaisir de vivre un peu légèrement. Et je pense que quand on n'est pas très bien, on a tous le droit, surtout en ce moment, d'être inquiet, d'être un peu dans l'anxiété, d'être pas forcément bien tous les jours dans sa vie. Mais du coup, on a tendance à se dire, bon, ben, ce soir, je sors et il y a l'espoir que ce dîner apporte de la légèreté. Et puis bon, bah, les autres aussi ont leurs problèmes. Du coup, ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, effectivement, un dîner...
Et on revient déçu,
du coup.
C'est normal, ça ?
Alors, c'est normal d'être déçu. Et en même temps, c'est tout l'objet de
votre ouvrage
avec Anne-Claire, c'est-à-dire comment dépolluer typiquement ce type de relation. Bah, c'est déjà de prendre conscience qu'effectivement, les autres sont autres. Donc, ils ont leurs problèmes qu'on ne peut pas deviner. On ne peut pas être dans leur tête. Donc, c'est pas mal de poser des questions.
À moins d'être très, très
doué. Voilà, à moins d'être très doué. Ouais. Et qu'on ne peut pas leur demander aussi de deviner ce qui nous anime.
Ouais.
Donc en fait, si on n'est pas dans une communication un peu authentique, de dire éventuellement au cours de ce fameux dîner où on s'ennuie, de dire « Écoutez, votre conversation, là, ok, bon, on pourra en reparler peut-être un autre jour, mais franchement, vous ne voulez pas là qu'on parle d'autre chose, de quelque chose, vous avez pas... »
Ça, il ne faut pas hésiter, par exemple, un premier conseil, si je puis dire, que vous pourriez donner, Marie-Charlotte, justement, d'arriver à être un peu plus authentique, comme ça, de soi-même, sans se concerter et d'y aller. D'oser carrément casser un peu la glace, quoi.
Oser, exactement. Oser dire, là, franchement, ce qui est en train de se dire, soit ça m'ennuie, ça m'intéresse pas. Vous voyez, moi, j'étais contente de vous voir, j'aurais bien parlé d'autre chose.
Vous êtes d'accord ou pas, Anne-Claire ?
Oui, tout à fait. De toute façon, toute relation, enfin, on est partie prenante aussi d'une relation, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas chacun fait sa part et on peut pas être en train de critiquer, enfin, ou de trouver que ces relations sont déplorables sans en même temps s'interroger sur soi,
absolument.
Quoi.
Mais j'avais une question justement, vous écoutons toutes les trois. Comment savoir, c'est vrai que parfois, les réseaux sociaux ont plein de qualités, on est tout à fait d'accord dessus. En revanche, parfois, on a l'impression que le lien est biaisé. On a l'impression, par exemple, qu'on est très proche de quelqu'un virtuellement, mais en même temps, on n'arrive pas, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on n'arrive pas, par exemple, à le rencontrer physiquement, ou bien ça nous ennuie, en fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, Béatrice Millette? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et comment faire pour s'en sortir, pour faire la part des choses? Est-ce que c'est une vraie relation?
Oui, je suis d'accord. Je vais vous dire, tout simplement, hier, j'ai vu un monsieur et qui a du mal avec les autres.
Oui.
Et puis, à un moment, je lui dis une question stupide, on est d'accord. Qu'est-ce que vous cherchez chez les autres? Il me regarde, il me dit, j'en sais rien. Et je suis d'accord avec lui, c'est pour ça que ma question est stupide. Parce que la seule chose qu'on cherche chez les autres, finalement, c'est une affinité. Et l'affinité, vous le sentez quand vous la vivez, finalement. Alors après, on peut décliner en disant, oui, mais je recherche un peu de ça, je caricature un peu en disant c'est stupide comme question, mais c'est un peu l'étincelle qu'on cherche chez les autres et on sait à ce moment-là qu'on s'entend avec eux. Mmh. Et ça, vous ne l'avez pas virtuellement. Il n'y a aucun moyen de l'avoir, c'est quand vous croisez la personne qu'à ce moment-là, effectivement, vous voyez si ça marche ou si ça ne marche pas.
On ne peut pas l'avoir virtuellement.
Et donc ça, il faut voir les gens pour ça.
Ouais.
Et d'un autre côté, alors moi personnellement, je ne suis absolument pas d'accord de dire aux gens chez qui je suis invitée, donc si je suis invitée ou si je les invite chez moi, c'est que j'ai des choses en commun avec eux, leur dire, là, vous me cassez les pieds les mecs. Enfin, moi, je ne sais pas
on
faire.
Pas
donc
comme
après,
ça.
Je pense que c'est très personnel finalement. Et ce n'est pas là-dessus, moi, que je poserai les choses.
Ouais.
Mais de dire, comme vous dites tout à l'heure, il y a des moments. Vous êtes au restaurant, la conversation, ça tourne autour de l'assiette, ça tourne machin. Vous préférez un peu les conversations, intellectuellement satisfaisantes. Pour rester dans la conversation, alors vous pouvez leur dire, mais ça me barbe votre machin. À ce moment-là, moi, je dis, mais qu'est-ce que vous faites là, finalement? Vous avez qu'à vous lever, vous assumez que ça vous barbe et vous partez.
Ouais.
Et si vous voulez rester parce que vous voulez un moment de partage avec vos amis, eh bien, vous décentrez un peu votre attention, et c'est ce qui se fait spontanément, et vous entendez le serveur qui dit, il ne reste plus que deux mousses au chocolat, et là, vous dites, si on veut une mousse au chocolat, il faut qu'on en prenne une, parce qu'après, il n'y en aura plus. Donc, vous décentrez un petit peu en écoutant un peu autre chose, plutôt que d'être focalisé en permanence sur ce qui se passe. Et c'est ça qu'on n'a pas, si vous voulez, dans les relations virtuelles. Vous pouvez pas, vous êtes dans une relation qui est exclusivement, je dirais ça, intellectuellement satisfaisant, encore une fois. Oui. Et quand vous trouvez la personne, c'est très rare, sauf quand vous êtes à une conférence ou, enfin, je sais pas, mais ou vraiment pris dans un débat d'idées.
Ouais.
Le débat d'idées, il fait pas la majorité des conversations avec les gens.
Ouais,
et donc, pour rester connecté, il faut un moment se décentrer, finalement.
Est-ce que vous êtes d'accord, ma Charlotte? C'est une bonne approche des choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, justement, ce que vous souhaitiez rebondir, je crois, ce qui vient d'être dit?
Alors, ce qu'on constate, en fait, dans les relations virtuelles,
oui,
c'est qu'il manque une chose absolument essentielle dans la communication humaine, qui est le langage du corps. Voilà,
ça rejoint ce que dit Béatrice.
Une photo sur Instagram, même des échanges de textes.
Ouais.
Y a des gens qui entretiennent une sorte de conversation par texto, enfin,
oui,
ou par
virtuel.
Voilà, virtuel. Et on voit bien, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a inventé les émoticônes, hein, c'est qu'il faut faire passer de l'émotion à un moment donné, parce que le texte...
Donc on surjoue quelque chose, forcément, d'une certaine façon.
Alors
enfin,
les émoticônes ont apporté
chose.
Beaucoup, d'ailleurs, c'est ouais, très intéressant ce langage visuel,
émoticône,
au fond, parce qu'on a... On avait besoin de mettre une dose d'émotion dans le message, parce que dans une communication humaine, en fait, l'énorme majorité du message qui passe par le corps. C'est-à-dire, c'est le son de la voix, c'est l'odeur. On n'en parle jamais, mais en fait, nous avons évidemment tous notre odeur, en plus, qui est extrêmement personnelle.
C'est le côté animal de la
Oui,
de la
complètement. Les phéromones, c'est pas une vue de l'esprit. Ça rentre très important dans la communication. L'aspect physique. Est-ce que la personne se met un petit peu à transpirer? Est-ce qu'elle rougit ou pas? Tout ça, on l'a pas avec uniquement du texte et une photo figée. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il nous manque les trois quarts du message, quoi.
Ouais, tout simplement. Eh bien, écoutez, voilà comment faire le ménage dans ses relations. On aborde cette question aujourd'hui dans Enquête de sens avec nos trois invités. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants. À tout de suite.
Enquête de sens, 01 56 56 44 00. La Bible, pas à pas.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne. Que dirais-tu de m'accompagner chaque semaine, pas à pas, sur le chemin de la Bible?
Ok. Mais pourquoi faire?
Pour y ramasser des petits cailloux blancs. L'idée, c'est de s'arrêter à chaque symbole attaché à un personnage biblique.
Ah, comme la colombe de Noé ou le buisson ardent de Moïse.
Ou même les lions du prophète Daniel.
Et tu nous aideras ainsi à comprendre les Écritures.
C'est ça.
La Bible pas à pas, avec Jocelyne et Étienne Tarnot, tous les dimanches à 9h30 sur Radio Notre-Dame.
Diapason, le magazine de la musique classique, vient de paraître. En septembre, Diapason vous révèle tous les secrets de l'œuvre de Gustave Mahler. À lire dans le même numéro, une interview exclusive d'Émilie Delorme, la nouvelle directrice du Conservatoire de Paris. Diapason, c'est aussi un CD événement, joint à votre magazine. La symphonie numéro 2 de Mahler dans une interprétation légendaire. Et ne manquez pas votre cadeau, le guide complet de la saison lyrique. Avec Diapason, osez être classique.
Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
Vous avez peut-être déjà pensé à organiser votre succession. Sachez que vous pouvez décider de donner une partie, même symbolique, de votre patrimoine à Radio Notre-Dame pour lui donner les moyens de perdurer et réduire vos droits de succession. N'hésitez pas à nous contacter pour en parler en appelant le 01 56 56 44 77. Léguer à la radio, un geste fort pour transmettre votre foi.
En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
Comment faire la part des choses entre relations virtuelles, amis réels, amis tout court? Comment faire le ménage tout simplement dans ces relations? C'est la question du jour d'Enquête de sens que je pose à Marie-Charlotte Lanta et Anne-Claire Lévesque, auteurs toutes les deux de 50 exercices pour dépolluer ses relations chez Erol, ainsi que Béatrice Millièttre, qui est docteur en psychologie et auteur de L'ennui des autres aux éditions Payot. Effectivement, est-ce que trop d'amis tue l'ami? Finalement, question que j'aurais pu vous poser au début de l'émission, les unes et les autres, est-ce que l'une ou l'autre a envie de répondre à cette question?
Comme disait très justement Béatrice Millièttre tout à l'heure, il faut aussi relativiser. Les réseaux sociaux appellent ça amis, mais je pense qu'en fait... les jeunes savent très bien que c'est pas forcément leurs amis, que les 350 followers qui suivent leurs grandes aventures en vacances sont pas forcément des amis. Je pense que les ados savent très bien faire la part des choses.
Peut-être mieux que nous, c'est ça que vous êtes en train de nous dire quasiment.
J'ai l'impression, oui. Ouais. Moi, j'ai un âge canonique de 52 ans, donc j'ai découvert les réseaux sociaux il y a pas très longtemps, et c'est vrai que dans un premier temps, ça m'a amusé, intéressé, et comme disait Béatrice, ça sert à plein de choses, la solidarité, on peut trouver du boulot comme ça. Enfin voilà, il y a plein d'aspects très positifs. En revanche, pour effectivement, j'étais très gênée par ce terme d'ami. Voilà, parce que je sais très bien que c'est pas des amis.
Facebook, c'est clairement ami, hein. C'est notifié. Donc,
mais pour le coup, les jeunes que je côtoie, que ce soit mes enfants, des copains des enfants, etc., savent très bien que ce sont pas des amis. C'est un terme un peu qui est devenu un peu générique. En revanche, quand ils parlent de leurs amis, eux, ce sont des potes. Voilà. Mmh. Les potes sont pas sur Facebook. Enfin,
d'accord.
Pas forcément.
Voilà. Donc, il y a un distinguo. Et peut-être y a-t-il. Alors maintenant, on va rentrer dans la partie peut-être solution, recette, je ne sais pas, pour en tout cas parvenir à faire un peu le ménage. Voilà, nous sommes en septembre 2020. Nicolas Haines, tout à l'heure, nous racontait typiquement qu'il y avait parfois des décalages. On a l'impression, on contacte quelqu'un qui ne sait même plus qui vous êtes. Ah, coucou, comment ça va? Tu es qui déjà? Enfin, bon, situation extrêmement gênante qui peut arriver. Alors, en tout cas, trêve de blague. Comment on fait Allez, Anne-Claire Lévesque, peut-être, première option, ou Béatrice Millet, comme vous voulez, mais de toute façon, toutes les trois, je vous attends.
Diagnostic.
Oui, on peut peut-être déjà, effectivement, faire une sorte de diagnostic un peu énergétique de quelles sont les bonnes énergies que m'apporte, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort, quoi.
D'accord.
Parmi mes relations professionnel, amical, qu'est-ce que ces gens que je croise et avec qui j'entretiens un lien peuvent m'apporter,
ouais,
pour que moi je me sente bien, en confiance, que je me fasse un petit stock de belle énergie. Et puis, quelles sont les relations professionnelles ou amicales, encore une fois, pour lesquelles je vais donner beaucoup, puisque une relation, on est d'accord, on donne et on reçoit. Où est-ce que finalement je donne beaucoup et en contrepartie, sans devenir cynique non plus, je me sens un petit peu lésée et un petit peu, enfin, où je sens qu'il y a un déséquilibre,
ouais,
quoi. Et déjà, ça c'est le premier pas pour avoir une vision un peu, un petit panorama de l'endroit où les relations sont peut-être un petit peu moins bonnes, quoi, un peu déséquilibrées, justement.
Ne pas avoir peur de faire le tri, Béatrice Millettre, enfin, en tout cas, quelle est votre vision des choses, vous?
Oui, alors je vous écoutais et
oui,
je vais vous embêter, hein, Marie-Ange, mais
allez-y,
moi, la première question que j'aurais envie de poser, c'est est-ce qu'il faut faire le tri dans ses relations, dans ses amis?
Vous remettez en question mon émission, là.
Exactement, je remets en question votre émission, mais pas vraiment quand même, sinon je ne serais pas là. Et je dirais, mais est-ce qu'il faut poser la question aussi noir sur blanc, j'ai envie de dire, ou est-ce qu'on ne peut pas simplement apprendre à un petit peu plus s'écouter? Parce que finalement, il y a un moment, vous avez des amis et vous dites, oui, bah, ceux-là, je ne sais pas quoi. On sent qu'on a envie de les voir ou qu'on a moins envie de,
oui,
les voir, qu'on a envie de laisser passer du temps, que quand ils nous appellent, on trouve un peu une excuse en disant,
oui,
bah, non, là, je ne peux pas.
Tout
ou,
à fait.
Ou je ne sais pas quoi. Et est-ce qu'on a besoin, tous, alors peut-être ça dépend des personnes aussi, de justement se poser la question en ces termes, est-ce que je dois faire le tri dans mes amis? Je pense qu'on se pose la question quand à un moment, ça devient trop difficile. Finalement, mais qu'on peut simplement s'écouter et dire, ben voilà, là je vais laisser passer un peu de distance parce que je vais pas passer beaucoup de ça m'a pas été très agréable.
C'est un tri naturel d'une certaine façon, c'est un peu ça que vous êtes en train de nous dire, hein, que ce soit naturel. Hein.
Oui, c'est ça, un peu de s'écouter soi-même et puis finalement d'assumer, ce qui est parfois un peu difficile,
ouais,
l'idée de dire, bon ben voilà, telle personne, en ce moment j'ai pas très envie de le voir ou de la voir, donc ben, je laisse passer un peu de temps.
Oui, c'est pas grave, si on met derrière, il n'y a pas besoin, ce que vous voulez dire par là, finalement j'essaye de comprendre, c'est que il n'y a pas besoin de mettre une étiquette ami ou pas ami. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des catégories aussi radicales.
Hein, oui, alors c'est vrai qu'en gros, on a tous à peu près je sais pas, une centaine, plusieurs dizaines de personnes que l'on côtoie, à peu près. Hein. Donc il y a, les potes, il y a les copains, il y a les amis qui sont, je ne sais pas, une poignée. Hein, quand
ouais,
même.
Tout à fait.
Sur une vie, on a des amis, c'est une poignée. Il y a les relations professionnelles, il y a la boulangère avec qui vous échangez des mots tous les matins, qui peut aussi devenir une copine, une amie, pourquoi pas. Il y a les parents d'élèves, il y a etc. etc. Et donc, est-ce qu'on a besoin de mettre une étiquette dessus? Effectivement, je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre, faut aussi plutôt, moi je suis plutôt partisane de ça, de d'assumer qui on est, d'arriver
et
à s'écouter
aussi, peut-être.
Et de dire ben voilà, là je suis bien avec telle personne, je le sens, je le ressens, j'ai pas besoin de d'aller chercher plus loin finalement.
Ouais. Vous êtes vous souhaitez réagir, Marie-Charlotte.
Moi, je retournerais également un peu la question, c'est-à-dire qu'au fond, faire le ménage, la question se pose. Je suis un peu d'accord avec Béatrice. Il y a pas de raison de faire de ménage si tout va bien dans nos vies.
En train de me dire que mon émission est nulle. Merci beaucoup.
Non, mais c'est intéressant. Il y a des débats.
Absolument.
Le ménage, on le fait quand on a de la poussière, quand l'air devient un petit peu irrespirable.
Saturé, oui.
D'où l'idée de dépolluer. C'est-à-dire là, pourquoi on se pose la question de dépolluer si on sent une pollution. Et la pollution, c'est quoi? C'est effectivement, comme disait Anne-Claire, des énergies négatives qui nous sont parfois amenées. Typiquement, ça peut être un inconnu qui vous invective dans la rue, comme ça m'est arrivé hier, où je me suis fait mais insulter, comme rarement dans ma vie j'ai été insultée, parce que mon vélo a eu le malheur de même pas de le toucher d'ailleurs, mais voilà, et on s'est croisés, j'étais à vélo, effectivement j'étais pas tout à fait sur la piste cyclable encore, mais alors ça a pris des proportions, bon, ça voilà, c'est déjà de la pollution, donc qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je pourris ma journée avec ça, ou est-ce que j'arrive à avoir la petite armure pour mettre à distance sa colère en me disant, bon, il a dû passer lui-même une très mauvaise matinée, c'est son problème, c'est pas le mien. Et puis il y a les thématiques évidemment de nos proches. Est-ce qu'on fait le ménage quand notre ami qu'on connaît depuis 10 ans systématiquement nous parle de ses problèmes de boulot et que ça nous pompe
mais c'est ça,
à chaque fois de l'énergie?
J'allais
ou pas.
Venir quand il y a un décalage.
Alors
c'est
je
terrible,
pense que
ça nous arrive tous. Ça.
La question du ménage se pose à ce moment-là si on sent que ça nous atteint, si on sent qu'effectivement, moi j'aime bien ce petit diagnostic entre soi et soi quand on sait qu'on va voir quelqu'un. Et comme disait Béatrice, c'est là où s'écouter, c'est intéressant, parce qu'on peut juste se poser 2 secondes et dire, bon, qu'est-ce que ça me fait au fond de voir cette personne? Alors, si ça
D'accord.
fait plaisir, généralement, on ne se pose même pas la question, on est juste très content et on ressent cette énergie géniale de joie à l'avance, on se réjouit. En revanche, quand la relation est un petit peu toxique, bah, on sent que je vais voir machin, mais tiens, c'est bizarre, tout à coup, on a moins d'énergie, puis c'est bizarre, parfois on oublie ses clés, alors on prend un quart d'heure de retard, et puis c'est bizarre, on a un coup de fil et on décroche plutôt que de dire non, désolé, je suis pas dispo parce que j'ai rendez-vous. Donc voilà, mine de rien, il y a des petits actes manqués qui font que on essaye de gratter du temps.
S'observer, hein, c'est intéressant ce que vous dites. Il faut vraiment s'observer.
Et écouter
ces
petits messages du corps, souvent qui sont extrêmement parlants et qui veulent juste dire alerte rouge, cette personne en fait te pompe de l'énergie parce qu'elle se sert entre guillemets de votre relation pour déverser sa peur, son inquiétude, son anxiété.
Sa détresse,
et on n'a pas une jolie relation, c'est pas ça. On n'est pas des poubelles les uns pour les autres.
Ouais, vous êtes d'accord, Béatrice, ou pas?
Oui, je suis d'accord. Et je suis d'accord aussi sur l'intérêt de votre émission, quand même, qui est de dire qu'à un moment donné,
Merci.
On fait quand même du tri dans nos relations.
Ouais.
Imaginez, vous avez une copine d'enfance, et puis comme vous venez de dire, elle nous parle toujours de ses problèmes de boulot. Oui, mais c'est pas grave, c'est une copine, on la connaît depuis toujours, on sait qu'elle va nous parler de ses problèmes de boulot.
Ouais.
Faut pas non plus s'écouter en disant,
j'en ai marre.
L'autre a des problèmes, j'y vais pas, parce que sinon on finit tout seul.
Ouais.
Donc on y va parce que on est quelqu'un de sociable, de sympa, de généreux, d'altruiste, de tout ce que vous voulez, on est un être humain, donc on y va, voilà. Et puis à un moment donné, je sais pas, il se passe, la personne en face nous fait une crasse, et là on se dit, bah oui, non, mais tant pis, c'est fini, là. C'est pas parce que je la connais depuis toujours que, d'accord, j'étais sympa, je prends sur moi, machin, ça m'apporte parce que je la connais depuis longtemps, et puis à un moment, on se dit, non, là c'est fini. Mmh. Et c'est difficile aussi de rompre avec des amis, on parle souvent de rupture amoureuse, mais rompre avec des amis qu'on connaît depuis longtemps, à un moment, on n'a pas
c'est
le choix, il faut
hein,
le faire.
C'est,
il faut le faire,
ça, c'est très
mais c'est difficile.
Hein. Ouais. Qu'en pensez-vous l'une et l'autre, Anne-Claire Lévesque?
Oui, enfin, je pensais là aux ruptures amicales qui peuvent être en effet extrêmement douloureuses.
Ouais.
Et pour lesquelles
souvent on se dit
on est désarmé un petit peu.
Je peux pas le faire. Ça,
ouais.
Je peux pas permettre de le faire.
Ouais. Mais pour revenir juste un tout petit peu en arrière, quand on parle de tri, bien sûr on pense qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Mais je pense entre les deux, il y a tout un conteneur dans lequel on va mettre des relations justement qui nous tiennent à cœur, qui vont être. Continuons avec cet exemple d'amis qui parle tout le temps de son boulot.
Ouais.
On est, comme le disait Béatrice, un peu coupé en deux entre l'empathie naturelle qu'on va éprouver pour cette personne-là au nom de cette amitié patiemment tricotée au fil des ans, etc. Et par ailleurs exaspérée parce que on se dit mais enfin ça fait 20 fois que je lui dis qu'elle devrait quitter ce job ou et puis elle m'écoute pas pour... bon bref mais ce typiquement ce moment un peu délicat difficile dans la relation amicale dont on est en train de parler c'est ça veut dire que si on est blessé, tourmenté avec ça, c'est que ça nous tient à cœur. Ouais. C'est que là-dedans, il y a quelque chose dans ce lien, quelque chose qui peut être valorisé, recyclé, puisque pour reprendre filer notre métaphore écologique avec Charlotte, c'est ça, c'est de se dire comment je peux faire évoluer cette relation. Toutes les relations, il n'y a pas que les relations amoureuses qu'il faut travailler pour les faire évoluer. Ouais. Une relation amicale évolue aussi. On n'est pas, on la connaît depuis 15 ans, d'accord, mais il y a 15 ans, on était la même et pas la même. Et elle aussi. Donc, une belle relation, c'est une relation qui s'arrose, qui s'entretient, vivante. Et donc, dans vie, il n'y a pas que des hauts, il y a aussi des bas.
Je vous soumets une phrase de Mark Twain pour rebondir sur ce que vous venez d'évoquer, Anne-Claire Lévesque. Le rôle d'un ami, dit-il, c'est de se trouver à votre côté quand vous êtes dans l'erreur, puisque tout le monde sera à côté de vous quand vous aurez raison. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Béatrice, Miliatre?
Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. C'est que des amis sont des gens fiables sur qui on peut compter, avec qui bien sûr on passe des moments qui nous correspondent, qui nous apportent quelque chose. Mais effectivement, des amis vont être là quand on a besoin d'eux. Les relations, souvent, ils sont pas là. Moi, je me souviens d'une dame que j'avais à mon bureau. Elle me dit « Ah, mais moi, j'ai 50 amis. Oh là là, c'est super. » Et puis le jour, tout simplement, sans même avoir un pépin, elle a déménagé.
Oui.
Ben, personne n'était là pour lui filer un pépin, apporter son matelas.
Le coup classique.
Ça, c'est... Voilà, le coup classique. N'empêche alors, que... et donc, cette dame n'avait aucun ami. C'était que des copains, finalement.
Ouais. Mais, donc, ça veut dire que l'amitié est un luxe énorme, et c'est rare alors. On s'aperçoit que la vraie amitié, Marie-Charlotte, vachement rare l'amitié.
Sans doute que la véritable amitié est rare, oui.
C'est incroyable,
c'est vrai, comme
quand on entend ça.
C'est une poignée d'individus. Comme dit Anne-Claire très justement, d'où l'importance de la travailler, de la nettoyer parfois. On parlait de ménage, on peut faire le ménage aussi dans une relation. Quand on dit faire le ménage dans ces relations, c'est pas forcément jeter ou...
Comment
on fait ? Alors, on parlait tout à l'heure de l'authenticité. Et bien, il faut avoir le courage parfois d'oser dire à l'autre ce qui ne nous convient plus. Mais pas pour dire « j'en ai marre, je ne veux plus qu'on se voit ». Ce n'est pas ça, ce n'est pas très intéressant au fond. C'est l'ultime recours. Mais pour dire « on a un problème ». Parce que si moi, à chaque fois qu'on se voit, pour reprendre l'exemple de la copine qui parle tout le temps de son boulot.
On l'a tous.
C'est pas mal d'avoir ce courage au nom de l'amitié au fond. C'est-à-dire au nom de ce lien si précieux et si magnifique, ça vaut le coup de le travailler. Donc d'avoir le courage de dire voilà, ça m'ennuie un peu, tu vois, ça fait quand même 4 fois qu'on se voit, 5 fois qu'on se voit, chaque fois c'est le même thème, donc j'ai l'impression que tu n'écoutes pas ce que je te dis, donc est-ce que ça te dérange ce que je te dis, qu'est-ce qui se passe pour toi, voilà, demander à l'autre, déjà dire ce en quoi on a un problème et demander à l'autre au passage, ce qui est quand même une très belle preuve d'amitié aussi, qu'est-ce qui se passe pour toi, raconte-moi, de quoi tu as besoin, c'est quoi ton vrai problème, parce que moi j'ai l'impression que là il n'y a pas de conversation entre nous, tu n'écoutes pas ce que je te dis, tu n'entends pas ce que j'en pense et du coup ça permet à l'autre d'ouvrir peut-être une porte. Après, si la personne n'est pas prête à ouvrir cette porte et à dire vraiment ce qu'elle a sur le cœur, bon, elle n'est pas prête, elle fera son chemin, mais au moins, on aura déjà toqué à la porte. Et c'est un peu
ce
que semble dire Mark Twain, c'est effectivement la véritable amitié, c'est d'être capable de faire confiance finalement à ce lien et à l'autre pour lui dire, je sais que tu seras capable d'entendre ce que j'ai à te dire. Après, s'il n'y a vraiment plus d'échange possible, bon, effectivement, là, c'est la rupture et c'est triste, mais...
Ça peut arriver parfois, Anne-Claire.
Moi, je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est de dire aussi ce qui se passe pour soi vis-à-vis de
l'ami en question.
De l'ami en question. Si,
et de la relation.
Voilà, ouais. et pas... que l'autre comprenne que c'est pas lui ou elle qui est visé par ce qu'on est en train de raconter, ouais. Mais c'est l'effet que cette personne va créer chez nous. C'est pas tant ce que cette si par exemple cet ami
se plaint tout le temps,
pouvoir lui dire, pas être dans le jugement ou dans la phrase désagréable, mais pouvoir lui dire j'entends que tu te plains tout le temps, mais quand moi je t'entends te plaindre tout le temps, ça me stresse parce que j'ai l'impression que tu ne tiens même pas compte du temps qu'on passe ensemble pendant lequel moi je t'écoute te plaindre. Qu'est-ce que
une façon
pourquoi
de dire, en fait,
pour hein. Oui, ouais. Et puis être capable d'oser aussi se découvrir soi-même quand on va pas être juste dans la critique de l'autre, mais pouvoir dire ça me blesse ou ça m'ennuie, mais voilà pourquoi, parce que voilà ce que ça génère au fond.
C'est
de
l'ennui,
moi.
Vous avez évoqué l'ennui, je vous propose de l'aborder juste après. Martin Rapeneau, comment font les autres? À tout de suite.
Radio Notre-Dame.
Comment font les autres pour avoir des amis? En tout cas, je ne sais pas comment faire une transition avec cette chanson.
En chantant des chansons, peut-être.
Ah bah écoutez, ça peut marcher dans la rue. Comment faire le ménage dans ces relations? C'est la question du jour dans Quête de sens, qui crée une certaine forme de débat, finalement, entre Marie-Charles Lanta, Anne-Claire Lévesque, auteure de 50 exercices pour dépolluer ses relations chez Erol, et puis Béatrice Millettre, qui est docteur en psychologie et qui a publié de son côté L'ennui des autres chez Payopsy. Tout court. L'ennui effectivement généré par certains autres, comment ça se fait que les autres nous ennuient, Béatrice, à ce point-là? Pourquoi on s'ennuie, c'est vrai, assez régulièrement en compagnie, tout simplement?
Mais je pense qu'on s'ennuie parce que, comme je disais un peu tout à l'heure, on attend un peu quelque chose de
nous réveille,
de satisfaisant en permanence. Ouais. On attend. Je vois beaucoup de personnes qui me disent, mais les gens, ils n'ont rien à dire, c'est des petites conversations, ouais. C'est quand même des petites conversations fatigues, on parle de la pluie, du beau temps, on est là, on commente les nouvelles du journal, tout le monde parle de l'épidémie, de machin, de la politique, bazar.
C'est
et puis finalement,
ça.
Ça fait débat, évidemment, quand même, entre les complotistes, les machins, ce que vous voulez, ça fait débat, mais c'est pas très intellectuellement satisfaisant, c'est pas transcendant, c'est pas un débat d'idées. Et vous avez beaucoup de gens... pas tous, hein, mais vous avez un certain nombre de personnes qui recherchent plutôt le débat d'idées. Et qu'à ce moment-là, mais ils arrivent au barbecue le dimanche matin, et au lieu d'avoir... Alors ils sont un peu, un peu un déni de la réalité, si vous voulez. En arrivant au barbecue chez les copains le dimanche, ils savent bien qu'on ne va pas parler de philosophie. Et enfin non, ils le savent pas justement. Et c'est là où ils vont s'ennuyer parce qu'ils vont enfin la cuisson de la saucisse, tralala, c'est pas drôle, c'est pas intéressant. Si ça, c'est pas intéressant au sens. Et c'est là où il faut faire la part des choses, je crois, entre intéressant au sens intellectuellement satisfaisant et au sens ça a un intérêt. Et l'intérêt, c'est de passer un moment de partage avec des gens qu'on aime bien.
Ouais, tout simplement.
Et comme on les aime bien, et ben on peut aussi supporter la cuisson de la saucisse et les tracas du boulot et ce que vous voulez. Et si on ne le supporte pas, et ben on prend un chemin de travers. Si je reprends l'exemple tout à l'heure sur la copine qui nous casse les pieds, ouais. Alors moi je ne suis toujours pas partisane de lui dire tu me casses les pieds avec tes trucs, ça fait 10 fois que tu me le dis.
Écoutez,
mais de prendre un chemin de travers et de dire on sait, on anticipe quand même, on la connaît la copine.
Oui.
Donc on sait qu'elle va encore nous parler de ses problèmes, ce n'est pas parce qu'elle ne nous écoute pas, c'est parce que les idées qu'on émet ont besoin de temps aussi pour faire leur chemin, voir qu'elle ne les adoptera jamais parce que ça ne lui correspond pas. Et à ce moment-là, on lui propose un ciné ou un théâtre.
Tout simplement, oui, pour casser un petit peu le rythme peut-être.
Ben voilà, pour continuer de la voir, mais autrement finalement. Mmh. Et donc je crois que c'est ça, c'est que les gens à un moment donné vont être dans une espèce de ce que j'appelle le déni de la réalité, ils savent pertinemment, en bruit de fond ou instinctivement, qu'effectivement, au barbecue, on n'a pas parlé de métaphysique, ou pas au début, en tout cas, c'est qu'à la fin, au fromage, au dessert, qu'on peut aborder des sujets un peu de fond. Et ils vont être déçus parce qu'ils ne perçoivent pas ça, ils n'écoutent pas ça, finalement.
Charlotte Lanta, ça vous laisse dubitatif, cette affaire ?
Moi, j'aime bien la cuisson de la saucisse, ça m'apporte de la joie. Et je crois qu'en fait, en tout cas, après c'est sans doute aussi assez personnel. Hein. Je pense qu'on on est tous uniques et donc ça dépend beaucoup de la personnalité. Il y a des gens effectivement très intellectuels qui vont attendre d'une relation qu'elle les nourrisse intellectuellement, d'autres qui sont dans l'émotion et qui attendent déjà du partage d'émotions, quoi, que ça vibre, qu'il se passe des trucs. Donc à la limite, si on s'engueule, c'est pas très grave. D'ailleurs, j'ai des exemples de soirées où voilà, c'était pas forcément joyeux, mais il y avait du débat, les gens s'engueulaient à moitié pour leurs idées, etc. Et puis on se peut dire après, oh, on a passé une bonne soirée, hein, t'as vu, quand il a dit ça, j'ai dit ça, parce que pourquoi ? Il y a de l'émotion en fait, il se passe un truc.
C'est ça qui est essentiel.
En fait, l'ennui, c'est quoi ? L'ennui, c'est presque quand on meurt, quoi.
C'est l'électroencéphalogramme plat, quoi.
Et ça, c'est le pire.
Comment ça se fait, ça ? Mais j'essaye de comprendre comment ça. C'est vrai qu'on ressent ça parfois. On s'ennuie.
C'est quand il n'y a pas d'échange d'émotions.
Et que tout le monde s'ennuie. Souvent, quand on s'ennuie, c'est que les autres s'ennuient aussi, non ? J'ai l'impression.
Ça, je sais pas. En revanche, c'est que
c'est vraiment une hypothèse. Hein.
C'est que une part de soi n'est pas vraiment présente. En fait, il y a pas cet échange émotionnel. Alors pourquoi ? Parce que peut-être qu'on n'est pas en adéquation avec les autres. Ouais. Pas tout à fait. Encore une fois, oui. Moi, tout ce que je voulais rappeler en fait tout à l'heure avant la chanson, c'est que d'ailleurs son titre tout à fait dans cette
comment
dans
font
cette
les autres.
Comment font les autres ? Il faut pas oublier que encore une fois, l'autre est autre. Et on a tendance à l'oublier, ça je trouve. Quand on en veut en permanence aux autres, on dit mais comment il peut faire pour continuer à faire ça ? C'est quand même incroyable de faire ça. Ben oui, ben l'autre est autre, on ne sait pas soi. Donc on se balade tous avec notre vision du monde, avec notre personnalité, notre éducation, notre culture,
nos valeurs.
Il faut se frotter à ça, Anne-Claire Lévesque, vous êtes d'accord ?
Oui.
C'est important. Ouais. Et alors l'envie, vous en parliez pendant la musique justement, Marie-Charlotte Lanta et Anne-Claire Lévesque, vous en parliez toutes les deux. Je pense que Béatrice Millettre aura certainement un avis là-dessus. Le fait effectivement, alors est-ce que vous le constatez d'abord que on s'envie de plus en plus, c'est ça Marie-Charlotte, votre constat ?
Je parlais des réseaux sociaux à ce moment-là.
Oui,
en fait, moi je sais que en tout cas dans les je pense que Béatrice évidemment aura aussi ce genre de témoignage. C'est une nouvelle pathologie en fait. Les gens qui viennent en consultation de coaching, en tout cas souvent amoureux, souffrent énormément à cause des réseaux sociaux après une rupture par exemple de ce qu'on appelle, c'est pas vraiment de la jalousie, c'est de l'envie. C'est-à-dire que c'est cette sensation que les autres
ont de la chance, ont du bol,
et a fortiori leur ex ont une vie bien plus intéressante et bien plus riche qu'eux. Et quand on est déjà dans la souffrance d'une rupture, qu'on a une estime de soi au ras du parquet et qu'on a une vision de l'avenir un peu tristoune parce qu'on se dit voilà, ça va être long pour trouver à nouveau quelqu'un, etc., qu'on se sent vraiment profondément seul, cet étalage-là, à longueur d'écran, qui est un petit peu hypnotique, parce que ça n'a pas de fin, au fond. Hein. On peut faire défiler comme ça les fils jusqu'au bout de la nuit.
Des gens enviés, en question.
Et l'actualité des autres.
Des autres.
Qui ont donc des vies...
Extraordinaires,
voilà. Et ça ne fait que rappuyer sur l'idée qu'on se sent seul.
Anne-Claire, vous êtes d'accord avec cela, j'imagine.
Oui. Je pense que dans ces moments-là, alors bon, c'est quelque chose que j'ai pas expérimenté. Enfin, j'ai jamais ressenti ce sentiment un peu terrible, mais enfin pas en tout cas sur Instagram et compagnie. Mais je pense qu'en fait, c'est ce que je disais tout au début, c'est que les gens se mettent en scène, racontent d'une façon, enfin scénarisé, etc. Ouais, c'est ça. C'est la photo.
La poudre de perlimpinpin, quoi.
Un peu, ouais, voilà. Et alors effectivement,
avec des filtres, avec
oui,
bien sûr, hein.
Avec des photos délirantes.
Regardez comme je suis belle, comme je suis heureuse.
Mais ouais, voilà.
Heureux, etc.
On n'a plus de rides, on n'a plus jamais de rides sur Instagram.
Non, mais c'est intéressant ce que vous racontez. Béatrice Millette, a-t-elle un avis sur cette histoire d'envie?
Oui, j'ai un avis et je suis un peu perplexe à vous écouter parce que moi, je n'ai pas cette expérience de l'envie qui arrive de plus en plus chez les autres.
Oui.
Et je pense que quand on parle à des réseaux sociaux, on parle beaucoup de Facebook finalement,
oui.
Et que les jeunes, ils ne sont pas là-dedans. Hein. Les jeunes, Instagram. Ils ne sont pas là à faire étalage.
Ouais.
Ils sont pas... ça a beaucoup changé. Ils sont sur Instagram, c'est vrai, sur Twitter beaucoup et sur TikTok maintenant. Et donc, ce n'est pas du tout le même rapport où ils font étalage en disant « j'ai au petit coin, j'ai mangé ça, j'ai
fait
ça ». Ça, c'est plutôt, excusez-moi, une autre génération.
C'est les vieux,
qui est peut-être la nôtre. Ou qui est, voilà. et même à mon bureau, des gens, j'en vois finalement très, très peu qui étalent leur vie sur les réseaux sociaux, sur disons, Facebook. Et moi, ce qui me frappe, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Si vous regardez les chansons des jeunes, enfin des jeunes chanteurs de notre époque, ben, ils sont tous dans... Ils sont pas dans « les autres sont mieux que moi ». Ils sont dans il faut assumer qui on est, soit soi-même. Je sais pas, voilà, la vie est chouette, faut pas attendre de la vie. Moi, je trouve c'est on n'est pas dans ce
Angèle,
dans ce débat là aujourd'hui.
Ouais, ouais, tout à fait.
Alors je sais pas, il y a je sais pas Mel Bent, il y a Bilal Hassani, il y a Angèle, enfin tous ces jeunes, toutes ces générations là qui sont partout en ce moment, qui sont Slimane, qui sont enfin voilà, ils nous donnent des leçons. Enfin ils donnent, j'ai l'impression, des leçons de vie. Nous, je sais pas, dans les enfin moi j'ai aussi un âge. Trouvez-vous un amoureux et puis faites l'amour à qui veut, libération sexuelle, tralala, enfin voilà, les années 80, là c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. Ils sont pas dans l'envie des autres, ils sont dans le besoin d'être eux-mêmes. Et dans, on peut pas être bien si on n'est pas soi-même.
C'est plutôt bon signe, Béatrice Millette, ça. C'est plutôt bon signe, ça, pour l'avenir relationnel, au fond.
Moi je trouve, et je trouve justement que ça, c'est aussi d'un point de vue thérapeutique, ce vers quoi on va de plus en plus. Moi, je passe mon temps à dire aux gens, assumez votre personnalité, soyez vous-même. Et je trouve que c'est plutôt bien. Et on est moins beaucoup... Moi, je ne trouve pas qu'on soit dans un développement extravagant de l'envie des autres.
Mmh. Non, Ou alors, quand on est peut-être un peu plus vieux, oser le quitter, alors à ce moment-là, si on l'a, effectivement. Marie-Charlotte.
Je voulais juste, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Béatrice. En tout cas, ce qu'on appelle les influenceurs, il ne faut pas oublier que c'est un nouveau métier, hein, influenceur.
Absolument.
Il y a même des formations. Instagram forme les gens pour devenir influenceurs. Donc, ça, c'est une réalité. Et par définition, ce nouveau métier consiste à faire ce qu'on appelle, bon, un mot un peu à la mode en ce moment, mais ce qui dit bien le storytelling. De soi-même, en fait. Hein. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin, ça, de
raconter une histoire
en permanence.
C'est vrai que parfois, maintenant, on voit... Alors, là, c'est peut-être pour défendre ce que vient de dire Béatrice, moi qui suis un petit peu certains influenceurs et influenceuses, de plus en plus, on assiste à une quête d'authenticité, justement. C'est-à-dire qu'ils ne se maquillent pas, ou alors elles ne se maquillent pas, ou alors elles sont complètement elles-mêmes, elles racontent exactement ce qu'elles font. Enfin, bref, il y en a certaines. Hein.
Avec quelques filtres, quand même.
Ça, c'est possible.
C'est nos make-up, mais avec le petit filtre qui fait du glam. On le sait, quand même, ça. Non, mais justement, je pense que c'est très important, et c'est là où la jeune génération, je pense, hein, je pense les ados, jusqu'à ceux qui ont 25 ans, pour le coup, eux, ils ont les informations, ils ont les outils, parce qu'ils les utilisent. Donc, donc ils savent très bien que toutes les photos sont truquées. En revanche, ceux qui sont plutôt mes clients, c'est-à-dire entre 25 et 40, oui. ils n'ont pas forcément tous ces outils, parce qu'ils ne sont pas nés dedans ni avec. Et donc, ils se laissent, je pense, plus avoir, entre guillemets, ouais. et sont peut-être plus sensibles justement à, à ce métier qui est très bien fait, encore une fois, d'influenceur, qui est de romancer complètement sa vie pour être suivi, pour être payé par des marques au passage. Enfin, c'est un métier, quoi.
Ouais, d'où l'intérêt, peut-être pour revenir finalement au début de cette émission, l'intérêt de s'observer, c'est-à-dire de savoir un peu qui l'on est avant d'aller faire des tris et savoir ce qu'on cherche chez les autres, en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu ça, finalement, qui détermine le rapport qu'on a aux autres et surtout, qu'est-ce qu'on en fait des autres, en fait, hein, tout simplement, finalement, ma Charlotte.
Oui, en fait, moi, ce que j'avais envie de dire au début, c'est que c'est pas tant l'idée de faire le ménage qui est intéressante, c'est l'idée d'avoir des jolies relations, quoi. Ouais. Et encore une fois, on l'a bien vu aussi pendant le confinement, à quel point c'était important quand on avait une jolie relation. Mon Dieu, mais ça donne une énergie incroyable. C'est quand même le lieu du coup où on ne se sent plus seul, quoi. On peut dire je t'ai trouvé, c'est merveilleux. C'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être aussi avec quelqu'un qui n'est pas forcément dans notre intimité, mais un joli moment de partage avec un autre être humain. Mais ça sauve une journée.
Ouais. Béatrice Minettre, Tomber les masques, c'est l'un de vos chapitres de votre livre. J'aimerais qu'on termine l'émission un peu là-dessus, puisque on sait bien que c'est compliqué de faire tomber les masques, même parfois avec ses propres amis. J'imagine que si vous l'avez écrit, c'est que c'est quelque chose qui est vécu.
Mais c'est-à-dire que oui, ça revient à ce que je dis de tout le temps, c'est que tomber les masques, ça veut dire être soi-même, ouais. effectivement, accepter les autres tels qu'ils sont aussi. Et se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de tomber le masque, finalement? C'est-à-dire aussi de dire à la copine qu'elle nous casse les pieds, je ne suis pas sûre que ça vaille le coup.
Non, mais même au-delà de cet exemple-là, vous avez beaucoup rappelé...
Oui, non, mais peu importe, c'est un exemple comme un autre, ça aurait pu être n'importe lequel.
De se confier, par exemple, à n'importe qui.
Est-ce que ça vaut le coup, effectivement? Je suis d'accord, qu'est-ce qu'on attend d'une relation, effectivement? Et tomber les masques, ça veut dire, c'est aussi pour soi-même, d'oser être soi-même, finalement, et d'oser, sans forcément dire aux gens, je te supporte pas, ta conversation m'ennuie, je sais pas quoi, mais se dire, bah là, j'y vais pas, j'ai envie d'y aller, ces gens-là, ils m'apportent quelque chose, ils m'apportent rien du tout. Alors après, ça dépend des périodes de notre vie, c'est très relatif, effectivement, quelqu'un qui veut des relations avec des débats d'idées, avec beaucoup de passion, à un moment, on a plutôt envie de relations émotionnelles avec les gens et on a un partage, on a une copine qui est super généreuse, mais on n'a rien à se dire ensemble autre que partager des bons moments, enfin je sais pas quoi, de rigoler, mais peu importe. Et on a des périodes comme ça. Et d'oser les assumer en se disant, ben voilà, ben là, c'est moi. Et puis, c'est comme ça. Et c'est très bien comme ça. D'avoir des gens... Moi, je vois une petite ado, elle est précoce. Et elle a une copine, excusez-moi, qui est bête comme ses pieds. Mais peu importe, ça n'a aucun rapport, finalement, parce que elle partage des bons moments.
Ouais, tout simplement. Il faut
rester
dans le feeling.
Et c'est ça, de faire tomber
aussi,
les masques, de se dire... C'est pas parce que je suis précoce que je vais avoir que des copines précoces, entre guillemets, un télo avec, ça c'est casse-pieds au plus haut point, c'est pas possible. Et donc c'est ça, d'assumer, et moi cette jeune, je la trouve merveilleuse, parce que, je vous dis, elle a une copine, qui est pas plus voilà.
Ouais, c'est une question de feeling,
super,
en fait.
C'est super.
Anne-Claire, vous souhaitiez rebondir?
Oui, je voulais juste dire que effectivement l'amitié, c'est quelque chose de tellement magique, qui nous transcende, qui nous fait progresser, c'est quelque chose de précieux. Et tomber les masques, il me semble que, je sais pas, en amitié, on donne, quoi. Et si on donne pas, ben c'est plus compliqué d'être dans l'attente de recevoir quelque chose, quoi.
Absolument.
Donc oui, à mon avis.
C'est bien beau de vouloir une belle amitié, mais il faut aussi donner un peu de sa personne, quoi.
Exactement.
C'est un peu ça, finalement.
Enfin, ouais.
On peut retenir.
Et c'est un bel échange, et on s'en rend même pas compte. On n'est pas là à compter en se disant bon, alors là, je suis une bonne amie, j'ai passé 3 coups de fil. Je crois pas que ce soit. C'est à la fois pas quantifiable et.
Et voilà, le cadeau de l'authenticité.
Allez, pour terminer, le dernier mot, Marie-Charlotte.
Non, mais voilà, se faire le cadeau de l'authenticité et célébrer. Moi, je trouve que les relations, c'est aussi célébrer la joie, faire multiplier les petits soleils.
Et les barbecues.
Et les barbecues, oui.
Ouais, avec des saucisses et de la conversation.
Et de la conversation, voilà, sur le rosé qu'on est en train de boire avec modération. Marie-Charlotte Lanta, merci à vous.
Merci beaucoup.
Coach en matrice, co-auteur de 50 exercices pour dépolluer ses relations avec Anne-Claire Lévesque. Merci également à vous, qui êtes auteur jeunesse. Et puis, Béatrice Millette, merci à vous, au bout du fil, docteur en psychologie, et qui avait publié de votre côté L'ennui des autres chez Payot. Merci à vous trois.
Merci à vous.
Et oui, pour vos précieux conseils, pour conserver nos belles amitiés et peut-être faire un peu attention aux fréquentations virtuelles. Voilà, restez ça comme ça. Très bonne matinée à tous et bonne journée.
Bonne journée.
Bonne journée.